Dans ce journal, on poursuit notre série sur le traitement des déchets. En vous parlant de couleurs de bac, on fait aussi un tour dans l'administration avant de vous parler d'un anniversaire, l'âge de raison pour une association. Le journal, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous.
Alors, on connaissait les bacs verts et bacs gris, va-t-on bientôt avoir des bacs marrons dans nos maisons ?
Eh bien, c'est en tout cas ce que prévoit le syndicat des déchets Fenouama, qui avait inscrit l'idée dans son schéma directeur en 2021. Il s'agissait de ne plus mettre les déchets organiques dans les poubelles habituelles pour les diriger vers ce nouveau bac marron, donc. Des plans inscrits sur le papier et qui vont se concrétiser à partir de cette année, ou du moins être testés, écoutez.
Nous allons choisir avec les deux communes volontaires un quartier, 50 à 100 pavillons, foyers, de ces communes pour justement mettre en place ce qu'on a appelé le bac marron qui va permettre de voir si la qualité du compost produit à partir de ces bacs marrons dans lequel vous allez pouvoir mettre tous les restes de repas, de préparation de repas, mais aussi vos petits déchets verts de la cour et vos papiers et vos cartons, s'il y a une valorisation locale qui peut être vraiment réussie.
Voilà, Benoît Lahir, le directeur de Fenouama, que vous avez déjà entendu sur notre antenne à propos de l'avenir du CET de Payoro ou des études sur le site de Nivet. Alors, le bac marron est donc un autre axe de développement pour le syndicat des déchets qui y voit de nombreux intérêts. Car les déchets organiques, ce sont notamment les restes alimentaires qui représentent un poids important dans les bacs gris. Les traiter à part, par exemple pour une transformation en compost et une utilisation agricole, c'est réduire les déchargements au Payoro, justement, augmenter la durée de vie et la salubrité du CET. Côté commune, le bac marron pourrait permettre aussi des économies puisqu'il accueillerait les papiers et cartons qui représentent 80% du bac vert. Des bacs qui pourraient ainsi être remplacés par des bornes de collecte de plastique et d'alu à l'entrée des quartiers. Quant aux usagers, ils ont aussi tout à gagner à séparer leurs biodéchets.
C'est ceux que vous n'avez pas à avoir vous aussi dans votre poubelle puisque c'est eux qui créent au bout de deux jours des mauvaises odeurs, des asticots, etc. Donc les gens qui font déjà au moins du compost à la maison peuvent se permettre de mettre à l'extérieur de leur domicile leur bac gris que tous les 8 à 10 jours. Donc c'est aussi potentiellement des économies de collecte pour la commune qui pourrait décider de diminuer la fréquence de collecte pour diminuer les coûts, nos charges, mais en contrepartie il va falloir trier un peu mieux le compost mais aussi le bac vert, etc.
Voilà le directeur de Fenouama qui précise que le test devrait durer au moins 18 mois. Le but, étudier une éventuelle généralisation de ce bac marron d'ici 2027.
Muay Thai Brotherson poursuit sa visite à Singapour.
Le président et sa délégation partis de Tahiti vendredi ont des entretiens institutionnels au programme aujourd'hui. Muay Thai Brotherson rend visite notamment au ministre du Développement Durable et de l'Environnement, ainsi qu'au vice-ministre de l'Éducation et vice-ministre des Affaires étrangères de Singapour. Il enchaînera par un entretien avec les représentants de Deloitte Digital pour parler numérique.
En mer, le nouveau patrouilleur de la marine vogue vers le Fenouin.
Il fait route vers la base navale de Papeete. Ce bâtiment de 1300 tonnes et de 80 mètres de long est le premier des deux pommes patrouilleurs outre-mer qui viennent remplacer les vieux P400. Il a quitté la base navale de Brest samedi et devrait, avec 10 000 km d'autonomie, mettre environ 2 mois pour toucher Tahiti. Un long périple pour l'équipage de ce navire, placé sous le commandement du lieutenant François Tisse. Cap Vert, Rio, Buenos Aires, le Cap Horn, mais aussi l'île de Pâques sont au programme avant de s'amarrer à sa base. Une base temporaire, puisque les travaux de construction du futur quai des patrouilleurs ont été engagé le mois dernier. La marine a investi 2 milliards pour accueillir ces nouveaux navires plus modernes, mais qui prennent aussi beaucoup plus de place.
Du côté de l'administration, la nouvelle directrice de la DSFE veut faire évoluer les conditions de travail des agents.
Oui, à 32 ans, Ravaïre Rosy a été nommée il y a un peu plus d'un mois maintenant à la tête de la direction des solidarités, de la famille et de l'égalité. Un service que la jeune femme connaît très bien, puisqu'elle y a elle-même travaillé en tant qu'assistante de service social. Et sa priorité, elle en parle sans hésiter, un gros travail à faire sur l'aspect ressources humaines. Une problématique qui perdure. En 2017, déjà, la DMRA, la Direction de la Modernisation et des Réformes de l'Administration, avait diligenté un audit faisant état d'une carence de 84 travailleurs sociaux. Une réalité à laquelle doivent faire face les agents en poste, souvent au détriment de leur propre bien-être. Et des rencontres ont déjà eu lieu avec les cadres des divisions et avec les responsables des 10 circonscriptions que rassemble la DSFE.
J'aimerais qu'on puisse travailler sérieusement sur les conditions de travail de nos agents. On en a plus de 200 au niveau de la DSFE. Et je trouve qu'avant de pouvoir aider sereinement les personnes en difficulté, il faut déjà que les agents qui ont ces fonctions puissent travailler dans des conditions correctes.
Et selon la directrice, nombre de ces agents ont une surcharge de travail qui occasionnerait dans certains cas un véritable mal-être au sein des équipes. Se pose alors la question du recrutement pour Ravaire Rosi qui envisage éventuellement de déléguer certaines missions à des associations qui seraient alors reconnues d'utilité publique. Mais le plus urgent, c'est d'abord de parvenir à stabiliser les équipes.
Il y a beaucoup de choses qu'on va essayer de faire évoluer au niveau des fiches de poste parce que c'est sûr que dans l'état actuel du service, c'est pas forcément c'est moins évident de faire intégrer de nouveaux entrants et surtout de les maintenir sur ces postes. Donc on va essayer du mieux qu'on peut de stabiliser nos équipes, d'attirer ces nouveaux diplômés dans le service.
Et il y a un manque d'intérêt qui s'explique selon elle par la pénibilité de la tâche dans un domaine, dit-elle, où les agents sont confrontés à la misère sociale, à la violence au quotidien. Un manque d'intérêt aussi par le salaire, moins intéressant que dans la fonction publique d'État. L'objectif est donc de rendre le service attrayant afin d'anticiper l'arrivée sur le marché de l'emploi des prochains diplômés d'État d'ingénierie sociale. Mais avant de pouvoir éventuellement les intégrer, Ravaire Rosi doit réussir à justifier le maintien de la quinzaine des 142 postes concernés par le gel dans la fonction publique territoriale ordonnée par le pays. Elle dit donc avoir transmis un argumentaire au ministère.
On a pu envoyer un argumentaire au ministère concerné. Pour nous, c'est vraiment important qu'on puisse ne pas toucher à ces postes parce qu'on a des promotions d'étudiants, de travailleurs sociaux qui vont sortir prochainement. On espère pouvoir en intégrer sur ces fameux postes vacants pour pouvoir venir renforcer nos équipes qui sont déjà surmenées, surchargées.
Et pour étayer davantage ses propos, elle mentionne qu'en métropole, la moyenne de dossiers suivis par un travailleur social est de 35 contre 80 dossiers au Fénois. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui semble la motiver à résoudre en priorité cette problématique interne. Elle parle peut-être même d'une éventuelle réorganisation de la DSFE, sujet qui devrait donc faire l'objet de futures discussions avec le ministère.
En culture, ça y est, on connaît le jury du Haïva.
Oui, les groupes inscrits au concours cette année ont voté pour ce jury 2024. Alors on va les lister par catégorie. Concernant le Hori Tahiti, on retrouve le président du jury, Matani Kainuku, avec à ses côtés Jean-Marie Biret, Emoana Metua et Macao Foster. Concernant le Himene, le jury est composé de Daina Tavayari, Mike Tessier et Timiri Atitio. Enfin, Pohei Temayana est jury dédié aux compositions de musique et de chant, tandis que Vaire Pohue Kadusto est en charge de l'écriture. 26 groupes sont en liste pour cette édition qui est programmée du 80 juillet.
Et on termine en fêtant un anniversaire.
Et oui, Coral Gardeners organisait vendredi une soirée pour présenter ses résultats quelques jours avant son 7e anniversaire. Créé en 2017 par Titouan Bernico et sa bande d'amis de Mauréa pour sensibiliser et pour trouver des solutions de préservation des récifs coralliens, Coral Gardeners a l'âge de raison. Pour répondre aux sceptiques nombreux dans la communauté scientifique, Coral Gardeners a discrètement musclé son jeu en s'adjoignant des chercheurs, en levant des fonds à l'étranger, en exportant le concept en dehors de la Polynésie aussi. Coral Gardeners n'est plus la petite initiative locale de ses débuts, c'est aujourd'hui 53 employés à plein temps. Et le rapport d'impact 2023 de l'association sera rendu public mercredi. Rapport qui aligne des chiffres impressionnants et montre une montée en puissance de leur activité l'an dernier. Plus de 100 000 coraux plantés depuis 2017, dont près de 70 000 en 2023, avec un taux de survie de 83% et plus de 12 000 mètres carrés de récifs. Restaurés. Les programmes à destination des scolaires ont déjà accueilli 1685 enfants et le rapport met également en avant les innovations de Coral Gardeners, notamment le réseau d'appareils connectés de surveillance et de diffusion d'images des jardins coralliens, mis au point avec le concours d'ingénieurs américains issus de géants du numérique. Titouan Bernico et son équipe ont misé sur leur capacité à communiquer sur les réseaux sociaux et Coral Gardeners prend une dimension internationale avec l'ouverture de franchises à Fidji et en Thaïlande. Voilà ce qu'explique Titouan Bernico.
Aujourd'hui, c'était l'occasion avant la sortie de notre rapport d'impact mercredi prochain. On voulait avoir ce petit moment privilégié avec la population locale de Tahiti et d'annoncer un petit peu nos grandes nouvelles comme l'ouverture de Fidji, de la Thaïlande et tous les avancées technologiques, la PAC sur le terrain, nos programmes d'éducation avec différentes écoles de Te Aupo et de Afraitu. Voilà, il y a tellement de choses sur lesquelles on est en train de travailler. C'est que le début de l'aventure, ouais.
Et incontestablement, les grandes entreprises s'intéressent à Coral Gardeners en lui fournissant des moyens financiers et une visibilité jamais atteinte par des projets similaires. Et de ce point de vue, c'est déjà clairement un succès. Voilà, c'est la fin de cette édition de la mi-journée. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve à 16h pour le dernier flash de la journée.